Radio Classique, les spécialistes.
Les spécialistes sur Radio Classique avec ce matin Serge Zaka, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes conférencier, vous êtes docteur en agroclimatologie. Bienvenue sur Radio Classique. On parle de la sécheresse avec vous. La situation est déjà extrêmement préoccupante à ce stade de l'année. J'attaque avec une question volontairement provocante. Est-ce que la France est en train de devenir, à vitesse grand V, un désert?
Alors, c'est un peu exagéré, effectivement. Non, la France n'est pas en train de devenir un désert en soi. Si on regarde les quantités de précipitations qui sont tombées dans l'Aude et dans les Pyrénées-Orientales, certaines stations, ça reste ponctuel, sont passées ponctuellement sur un an dans un climat désertique. C'est en dessous des 200 mm de pluie sur un an glissant. Et c'est ce qui s'est passé du côté de Perpignan, du côté de Leucate par exemple. À Leucate, on est autour de 129 mm, à Perpignan autour de 200. Mais ça reste ponctuel sur un an. Pour passer dans un climat désertique, il faut bien sûr beaucoup plus d'années en dessous des 200 mm et une végétation différente et un rapport à l'eau différent. Là, ça reste ponctuel, mais c'est juste qu'on n'a pas forcément l'habitude et on n'a pas un rapport à l'eau qu'on peut avoir dans des pays désertiques.
Mais ce rapport à l'eau, justement, est-ce qu'il n'est pas en train de changer très vite? On voit que ces alertes sécheresse nous semblent être de plus en plus précoces dans l'année, sur de plus en plus de territoires et de plus en plus renforcées finalement.
Tout à fait. Si on prend par exemple le Languedoc-Roussillon, depuis 1959, dans les années 60, on avait à peu près 5% de surface agricole en sécheresse par an, en moyenne. Maintenant, on est autour des 20%. Donc on a multiplié par 4 le nombre de surfaces en sécheresse. Et ça augmente, hein, ça augmentera d'ici 2050, d'ici 2100, suivant les scénarios de réchauffement. Donc, oui, notre rapport à l'eau doit changer, étant donné que la probabilité d'obtenir une année comme 2022 et comme 2023 devient de plus en plus grande d'ici 2050. Donc notre rapport à l'eau doit inévitablement changer.
Aujourd'hui, c'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience insuffisante à ce stade. On voit chaque été des conséquences dramatiques, mais finalement, on continue de consommer autant d'eau chez soi, dans son jardin, et pour l'agriculture, pour l'industrie, que d'habitude.
Bien sûr qu'on a eu une prise de conscience, on va dire, inefficace à ce niveau-là. On a eu la canicule de 2003, on a eu plusieurs canicules entre celle de 2003 et les trois de 2022. Pourtant, on a l'impression qu'à chaque fois, on redécouvre la sécheresse tous les ans. C'est simplement que notre philosophie, toute la construction économique qu'on a autour de l'eau n'a pas changé depuis. Notre façon de concevoir l'eau comme une réserve illimitée, ça n'a pas changé depuis 2003. Et donc, on a vraiment un problème d'éducation, un problème sur le long terme de nos modifications du rapport à l'eau.
Les autorités publiques françaises semblent être sur la réserve. On fait des réunions, on annonce des plans, mais il y a un sentiment d'impuissance publique. Est-ce qu'on manque d'idées, tout simplement, pour lutter? Ou de courage, hein, peut-être, pour faire cette grande bascule, hein, quelque part, que vous évoquez?
Alors, on ne manque pas d'idées, mais on manque de courage. Ouais. Effectivement, ces données climatiques sur le Languedoc-Roussillon, ça fait depuis à peu près 20 ans, même 30 ans, hein, que le GIEC alerte sur une diminution des précipitations à l'année et une augmentation de l'intensité des sécheresses. Pourtant, quand on regarde ce qui s'est passé depuis, il n'y a pas grand-chose qui a été fait sur le long terme. Ce sont souvent des mesures sur le court terme, donc essentiellement des restrictions, mais sur le long terme, il n'y a pas grand-chose qui est fait. Moi, j'appelle ça un peu la politique du pansement où on agit dans l'urgence, mais par contre, sur 20 ans, 30 ans, 40 ans des planifications, on en observe très peu, notamment en agriculture, notamment sur la rénovation du réseau hydrique, et notamment sur les politiques pour le tourisme. Tout ça, c'est vraiment du court terme et ça se traduit en restrictions, en urgence. Et malheureusement, sur le long terme, on n'a pas forcément beaucoup de
Là, ce qui est annoncé aujourd'hui, c'est ces dernières semaines, sur à la fois la réutilisation des eaux usées ou le fait de rénover en profondeur le réseau, puisqu'on sait qu'une quantité énorme des eaux part finalement dans les fuites. Ça vous semble pour l'instant insuffisamment ambitieux?
Alors, c'est effectivement un bon pas, mais je ne vais pas féliciter ces mesures-là, puisque c'est des mesures qu'on aurait dû prendre il y a 20 ans.
Oui.
Pour éviter justement qu'en 2022-2023, on obtienne ce type d'urgence. J'arrive pas à comprendre comment en 2023 on réalise qu'il y a à peu près 20 à 30% de pertes d'eau sur le réseau d'eau potable, qu'on réalise qu'il faut faire une transition sur le long terme pour les agriculteurs et pas seulement des restrictions ponctuelles sur une année. En fait, on peut pas se féliciter d'être en retard.
Et le déclic, est-ce qu'il peut venir du fait que, on l'a vu l'été dernier, et ça va certainement se reproduire cette année, des communes n'ont plus d'eau potable et donc des habitants sont alimentés par des camions citernes ou des livraisons de bouteilles?
Alors c'est un risque qu'il va falloir anticiper et éviter. Si par exemple, il y a 20 ans, on aurait eu une politique sur l'eau beaucoup plus forte, on n'aurait peut-être pas eu des villages en restriction d'eau totale, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'eau dans le robinet. Malheureusement, étant donné les politiques actuelles et le retard qu'on a accumulé, on peut s'attendre que dans les prochaines années, hein, d'ici 2030-2040, on ait de plus en plus de villages en France, et pas forcément que dans les Pyrénées-Orientales, en France, qui soient privés d'eau potable. Alors, il faut pas non plus devenir catastrophiste et se dire Perpignan n'aura plus d'eau. Non, il y a quand même une sécurisation des grandes villes. Mais moi, je parle des villages plutôt en montagne, des villages isolés, ouais. Des villages en bout de réseau. Et ça va devenir de plus en plus fréquent. Mais ça concernera pas, bien sûr, les grandes villes comme Perpignan.
On se rend compte aussi que les réseaux d'eau sont pas aussi centralisés que les réseaux, par exemple, d'électricité. C'est quelque chose qui est beaucoup plus local. Ce qui se joue en France est aussi très présent à l'étranger. Vous publiez ces dernières heures sur votre compte Twitter. J'invite nos auditeurs à aller regarder des images satellites de l'Espagne avec des différences frappantes, ne serait-ce que d'une année sur l'autre.
Exactement. Alors qu'en 2022, les images satellites que j'ai diffusées sur Twitter en 2022, on était déjà en sécheresse.
Ouais.
Là, en 2023, on est en sécheresse totale. C'est-à-dire que ça se traduit en perte de récolte totale. Les céréales qui poussaient au cours de l'hiver, là, et qu'on doit récolter au printemps, en fait, sont mortes avant la mise en grain. C'est-à-dire qu'on n'aura rien à récolter. Et si on peut chiffrer ça, on a un premier chiffrage, et c'est juste le premier chiffrage d'ailleurs, on a 3,5 millions d'hectares de céréales qui sont perdus, c'est-à-dire avec une récolte 0% en Espagne. Mmh. Ça correspond à peu près 13% de la surface agricole française, qui est énorme vu la taille de la France, et c'est 333 fois la surface de Paris pour que les Parisiens puissent se repérer. C'est vraiment énorme en termes de pertes.
Et avec les questions que ça pose sur l'alimentation.
Qui sont concernées.
Avec des questions évidemment sur la sécurité alimentaire ou sur les prix des denrées agricoles qui vont forcément exploser au moins localement avec ce genre de soucis. Merci beaucoup Serge Zaka. Je renvoie donc à votre compte Twitter et à vos conférences. Vous êtes conférencier et docteur en agroclimatologie. Merci beaucoup d'avoir été ce matin en direct dans les spécialistes de Radio Classique. Il est 7h48. Dans un instant, une émission mythique de l'audiovisuel français. Elle est à peu près à égalité avec la matinale de Radio Classique évidemment. C'est 5 colonnes à la une qui est regardée et disséquée dans le journal imprévisible de Marc Bourreau. À tout de suite.